Et merci d'avoir choisi Europe 1, il est midi.
La décision que j'ai prise, c'est 300 millions d'euros de disponibles en plus pour le logement social. C'est 17 000 logements sociaux supplémentaires. Je pense que c'est une bonne nouvelle.
Comme neige au soleil, le taux de rémunération du livret A tombera au 1er février à 0,5%. Et pourtant, 55 millions de livrets sont toujours en circulation. Dossier complet, Pierre, dès le début de ce journal.
Et Bruno Le Maire, que vous entendrez, qui justifie justement cette décision. La justice annule la garde à vue de Muriel Boll en 1984, une façon de blanchir l'un des témoins clés de l'affaire Grégory. Ses déclarations, pourtant, avant la garde à vue, tout comme son interrogatoire, ne sont pas annulés. Explication à suivre.
À deux mois des municipales, des élus appellent à un MeToo des territoires. Bloquer les candidatures de ceux qui auraient été épinglés pour du harcèlement ou des agressions sexuelles.
Sur les agressions sexistes et sexuelles dans les partis, on retrouve un clivage gauche-droite avec des partis de droite où il ne s'est rien passé.
Municipal encore, Emmanuel Macron s'attend à un échec dans son camp. Adrien Beck nous dit tout.
La prescription du tramadol, bientôt limitée à 3 mois, en cause l'addiction de ce puissant opioïde et ce qu'elle peut engendrer.
Pour sortir de cet effet de manque et tout ça, j'ai dû réduire les doses petit à petit et ça a quand même pris l'équivalent de 3-4 mois.
Nous serons en ligne avec Nathalie Richard de l'Agence du médicament. Le foot avec une incompréhension totale. À l'OM, un grand moment de solitude de l'entraîneur hier en pleine conférence de presse. On vous dit tout. Et puis le palmarès des romanciers Guillaume Musso, préféré des Français, et Michel Houellebecq qui fait son entrée dans ce classement. La météo, Céline Dacosta, encore beaucoup de douceur aujourd'hui.
Oui, c'est la journée la plus douce de la semaine d'ailleurs, avec une moyenne de 13 à 17 degrés. Il en fait 14 à Paris cet après-midi. On en profite, ça baisse dès demain. Le soleil est de la partie, mais une nouvelle perturbation pluvieuse arrive déjà par la Bretagne.
Merci Céline. Météo complète, midi et demi sur Europe 1.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Vous avez sans doute un livret A. Nous sommes d'ailleurs 55 millions à en posséder un.
Oui, mais voilà, à partir du 1er février, le taux de rémunération passera de 0,75 à 0,5%. Décision du gouvernement qui est expliquée ce matin par le ministre de l'économie, Bruno Le Maire.
Je suis profondément convaincu que c'est la seule décision responsable. Qu'est-ce que j'aurais donné comme oxygène aux Français? Quelques euros par an. Qu'est-ce que je donne
c'est
en échange?
C'est toujours important dans un contexte social tendu.
Bien sûr que c'est important. Mais je dirais après ce qu'il faut faire aussi sur le livret d'épargne populaire, ce que nous allons faire pour permettre aux plus modestes de placer leur argent en sécurité avec un meilleur rendement. Mais pour le coup, j'aurais retiré beaucoup d'oxygène au logement social, qui a besoin d'avoir des taux d'intérêt attractifs pour se financer et construire des logements sociaux. La décision que j'ai prise, c'est 300 millions d'euros de disponibles en plus pour le logement social, c'est 17 000 logements sociaux supplémentaires qui pourront être construits dans l'année 2020.
On peut l'entendre.
Donc pour les salariés les plus modestes, pour les Français les plus modestes, savoir qu'il y aura plus de logements sociaux, plus de rénovation de logements sociaux, je pense que c'est une bonne nouvelle.
Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, ce matin sur Europe 1 avec Sonia Mabrouk, Olivier Samin, en dehors du livret A, qu'est-ce qui reste finalement pour placer son argent?
Eh bien, si vous avez des ressources modestes, si par exemple vous êtes marié ou pacsé sans enfant et si le revenu fiscal de votre couple n'a pas dépassé 30 645 euros en 2018, vous pouvez placer vos économies sur un livret d'épargne populaire et même sur deux livrets, un pour vous, l'autre pour votre conjoint. C'est un placement qui rapporte aujourd'hui 1,25%. À compter du 1er février, il va baisser à 1%, mais 1%, ça reste intéressant puisque c'est deux fois plus que ce que va rapporter le livret A. Bruno Le Maire a expliqué ce matin que 7 millions seulement de livrets d'épargne populaire sont ouverts aujourd'hui en France. Il pourrait y en avoir beaucoup plus, mais beaucoup de Français, pourtant éligibles, boudent ce placement parce qu'il faut présenter son avis d'imposition à la banque au moment de l'ouverture et il faut le représenter chaque année pour que la banque vérifie que vous répondez toujours aux conditions de ressources. Pour lever ce frein, le ministre de l'économie a annoncé que désormais, il ne sera plus nécessaire d'apporter son avis d'imposition. C'est la banque qui se renseignera directement auprès de l'administration fiscale. Ça, c'est donc pour les ménages modestes, 40% des Français quand même. Pour les autres, il y a l'assurance vie. Si vous voulez que votre placement soit garanti, il faut investir dans des fonds en euros. Mais le rendement n'est pas très élevé, 1,4% en moyenne l'année dernière. Si vous recherchez un rendement plus élevé, il faut préférer les contrats d'assurance vie en unité de compte. Là, ça rapporte plus. Mais c'est plus risqué puisque ça s'appuie sur la bourse ou d'autres marchés financiers. Il y a donc un risque de perte en capital.
Merci pour ces explications complètes. Olivier Samin du service économie d'Europe 1.
Il est midi 5, la suite de votre journal, Raphaël Duchemin, Pierre de Villeneuve.
Muriel Boll attendait cette décision de pied ferme. L'une des témoins clés de l'affaire du petit Grégory voit sa garde à vue de 1984 annulée, décision de la Cour d'appel de Paris.
Cependant, Pierre, et c'est important, les déclarations de l'époque, alors qu'elle était adolescente, tout comme son interrogatoire devant le juge Lambert, sont maintenues. C'est donc un échec pour la défense.
Oui, maître François Saint-Pierre est l'avocat, lui, des époux Villemain, les parents du petit Grégory, qui ont l'intime conviction que Bernard Laroche a tué son fils. Pour autant, ils ne veulent pas s'acharner sur celle qui, selon eux, a été un témoin indirect du meurtre.
La Cour d'appel de Paris a rendu une décision qui est très raisonnable, puisqu'effectivement, elle a annulé la garde à vue de Muriel Boll, qui a été jugée inconstitutionnelle. En revanche, elle a maintenu au dossier les dépositions antérieures de Muriel Boll. Or, c'est dans ces dépositions que Muriel Boll a livré l'intégralité du récit de l'enlèvement de Grégory par Bernard Laroche. Ça ne change absolument rien. Tout le dossier reste debout. Pour Jean-Marie et Christine Villemain, jusqu'à leur dernier jour, ils voudront savoir la vérité. Qui a tué leur enfant? Selon nous, Muriel Boll a dit la vérité, mais à l'époque, à l'âge de 15 ans, elle n'a pas pu être consciente de participer à un crime. Donc nous avons pris l'engagement que nous ne demanderons pas la mise en examen de Muriel Boll et a fortiori pas sa traduction devant un tribunal pour mineurs.
Maître François Saint-Pierre, l'avocat des époux Villemain avec Marion Dubreuil. Garde à vue prolongée pour Christophe Ruggia, le réalisateur accusé par Adèle Haenel d'attouchement lors du tournage de son premier film lorsqu'elle avait 13 ans. Confrontation ce matin entre le réalisateur et l'actrice. Chacun a maintenu sa version. Christophe Ruggia doit être présenté à un juge en vue d'une éventuelle mise en examen.
Hashtag MeToo, ce mouvement, évidemment vous le connaissez, il est une arme qui a délié beaucoup de langues. De nombreuses femmes ont réussi à parler, à se livrer, à raconter ce qu'elles ont vécu. Eh bien, ce mouvement, Pierre, va aussi avoir un rôle politique.
Et le 15 mars prochain, les municipales, et voilà que des élus et des militants de gauche appellent à un MeToo des territoires. L'idée, Jihan Bergaoui, c'est de bloquer les candidatures de tous ceux qui ont été soupçonnés ou épinglés dans des affaires de ce genre.
Absolument, passer au crible les candidats pour faire le ménage dans les investitures. Jusqu'ici, peu de cas sont signalés dans les différents partis. À Firminy, près de Saint-Étienne, les communistes ont lâché leur candidat officiel condamné pour agression sexuelle. Le Parti socialiste a lui gelé l'investiture du maire sortant de Saint-Nazaire. Il avait écarté des conseillères municipales qui avaient dénoncé les agissements d'un autre élu. Il ne faut rien laisser passer, explique le patron du PS, Olivier Faure.
On n'a pas les moyens d'enquêter sur les uns et sur les autres. Mais à chaque fois que sont portés à notre connaissance des faits, nous regardons comment on réagit par rapport à ces éléments-là. Quitte à y perdre des bastions dans lesquels nous sommes là depuis longtemps.
Alors chez Europe Écologie Les Verts ou à La République En Marche, une cellule d'écoute est disponible pour les victimes. Mais jusqu'ici, pas de cas signalés pour ces municipales. Pas d'affaire non plus chez Les Républicains où on assure qu'au moindre problème, ce sera l'exclusion. Contacté, le Rassemblement National n'a pour l'instant donné aucune réponse. Ce sujet reste délicat, comme le dit Hélène Bidard. Elle préside l'association Élus contre les violences faites aux femmes.
Sur les agressions sexistes et sexuelles dans les partis, on retrouve un clivage gauche-droite avec des partis de droite où il ne s'est rien passé. Pas une expression politique de la part des premiers dirigeants, rien. Et c'est assez inquiétant parce que ça veut dire qu'il y a des personnes qui doivent souffrir de ce manque de parole.
Dans les états-majors, on s'interroge où placer le curseur et des blagues lourdes, ça mérite une exclusion ou bien c'est uniquement pour des gestes ou des comportements inappropriés. Tout ça, c'est encore une zone grise pour les différents partis qui doivent respecter la présomption d'innocence tout en écoutant la parole des victimes.
Merci pour cette enquête, Jihan Bergaoui.
Et les midi 9.
Europe 1.
Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. Les confidences d'Emmanuel Macron pour les municipales, justement. Mais aussi le tramadol, ce puissant antidouleur, va être beaucoup mieux encadré. A tout de suite.
Il est midi 11, la suite de votre journal avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin.
Ce sont les irréductibles, alors que la grève, sans doute la plus longue de l'histoire, touche à sa fin. Les derniers manifestants, Pierre, battent encore le pavé.
Et c'est le cas à Bordeaux, Stéphane Place. Vous êtes en direct et beaucoup de monde, hein?
Oui, et ce matin encore ici, dans le centre de Bordeaux, des dockers, des électriciens, des cheminots, beaucoup d'enseignants également, comme Charlotte, professeur d'histoire et géographie.
Un, à la retraite, on va perdre beaucoup Et ensuite, on ne peut pas, dans notre profession et dans plein de professions, travailler jusqu'à 67 ans. Vraiment, on est épuisé à 40 ans, 45 ans, parce qu'on a des difficultés dans notre pratique au quotidien. Et puis les actions vont se multiplier, c'est-à-dire que là, on rentre dans une guerre d'usure. On va multiplier les actions, rectorat occupé, des murs de livres, des jetés de cartables, parce qu'on n'est pas entendu, on n'est pas écouté, donc on est obligé de trouver de nouvelles actions pour être entendu.
Sono à fond, vous l'entendez derrière moi, et slogan réclamant le retrait de cette réforme. Pour le secrétaire départemental de la CGT en Gironde, Stéphane Aubé, la mobilisation ne faiblit pas.
La comédie et le jeu de dupes qui est présenté par le gouvernement actuel ne prend pas. C'est une volonté justement de figer et d'ancrer dans la loi le principe d'un âge pivot que maintenant ils appellent âge d'équilibre. Ça, c'est des choses qui sont complètement rejetées. Le régime par points qui est maintenant validé comme étant empiré par une mesure d'âge qui va s'inscrire sur la durée et qui va continuellement faire que les gens vont partir de plus en plus tard.
De nouveaux appels à manifester sont d'ores et déjà lancés pour la semaine prochaine ici à Bordeaux.
Merci Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 en direct de Bordeaux. Des manifs un peu partout en France d'ailleurs, notamment également à Marseille, à Toulouse, à Lyon, encore à Paris. Un nouveau rendez-vous prévu le 24 janvier prochain.
Et pendant que l'exécutif attend lui que la grève s'épuise, Emmanuel Macron n'est pas très confiant manifestement pour les municipales.
Mais alors qu'il présentait ses vœux à la presse hier soir à l'Élysée, le chef de l'État s'est livré à des confidences. Sa majorité, on le sait, pense aller droit dans le mur au prochain scrutin municipal. Visiblement, le président est à peu près sur la même ligne, Adrien Beck.
Oui, c'est ce qu'on appelle une prise de distance. Ce n'est pas moi qui fais les municipales. Voilà ce qu'a dit d'emblée Emmanuel Macron, qui fait mine de ne pas vouloir s'en mêler. Donc, même si on sait que le chef de l'État fait régulièrement des points sur le scrutin avec les dirigeants de La République En Marche. Emmanuel Macron, qui anticipe ce que certains marcheurs voient déjà comme un échec annoncé, considérer qu'on peut rafler les municipales comme on gagne les législatives est faux, nous a assuré le chef de l'État, qui s'en réfère aussi à De Gaulle, les municipales 1959, échec pour le général et son jeune parti. Prudence, prudence donc, et les arguments sont déjà prêts, relativiser la portée du scrutin, ce n'est pas une élection nationale, je ne vais pas considérer que les gens votent pour tel ou tel candidat parce qu'ils soutiennent ou pas le président, dit-il. Un scrutin local, aux conséquences locales, voilà ce qu'il faut comprendre. Je n'en tirerai pas de manière automatique des conséquences nationales, dit en conclusion Emmanuel Macron, ce qui espérait un remaniement d'ampleur à la suite de ces municipales en seront donc pour leurs frais.
Merci Adrien Beck du service politique d'Europe 1.
Il est midi 14, votre journal se poursuit avec Claire Devineau et Raphaël Duchemin. Prenez-vous du Tramadol, on le rappelle, cet antidouleur très puissant est uniquement prescrit sur ordonnance. L'Agence nationale du médicament a décidé de limiter sa prescription à 3 mois et ce, dès le 15 avril prochain.
Écoutez le témoignage de Mathieu, il est victime de mal de dos chronique et il était devenu totalement accro au Tramadol.
Je devais prendre l'équivalent de 120 gouttes par jour, donc je prenais un flacon tous les 3 jours. C'était une sacrée dose. Le problème, c'est que je sentais un ralentissement, en fait, même d'un point de vue intellectuel. J'avais l'impression d'être comme le matin quand on vient de se réveiller et qu'on sait pas trop où on est et puis qu'est-ce qu'on fait. Suite à ça, ça a été très difficile d'arrêter. Si on s'arrête d'un coup, on a tous les effets de manque classiques, c'est-à-dire qu'on commence à suer, on se sent pas bien, on a l'impression que ben justement on est tout faible, qu'il y a quelque chose qui se passe mal. Donc pour sortir de cet effet de manque et tout ça, j'ai dû réduire les doses petit à petit et ça a quand même pris l'équivalent de 3-4 mois. C'est assez étrange quand on est là-dedans.
Voilà le témoignage de Mathieu avec Zoé Pallier. Bonjour Nathalie Richard.
Bonjour.
Vous êtes la directrice adjointe des médicaments antalgiques et stupéfiants à l'Agence du médicament. La décision de l'ANSM est motivée pour limiter les risques de mauvais usage du Tramadol. Quels sont-ils ces mauvais usages ?
Alors le Tramadol est un médicament efficace. Quand il est bien utilisé, souvent il n'y a pas de problème particulier. Mais ce qu'on a remarqué par contre, c'est que concernant le Tramadol, il y avait des problèmes de dépendance de certains patients, même à dose thérapeutique, et même qui pouvaient survenir sur des temps assez courts de traitement.
Pourquoi ? Parce qu'ils s'en servent comme d'une drogue ?
Alors, pas forcément. En fait, ces médicaments, donc antidouleurs, ce médicament opioïde antidouleur est prescrit dans des conditions tout à fait normales pour des patients qui ont mal. Et il peut arriver, il arrive souvent maintenant que même dans une population tout à fait douloureux, chez ces patients, il est possible de devenir dépendant. Même à des doses normales. Et en fait, les patients, par exemple, augmentent de même les doses et ne peuvent plus arrêter le traitement.
C'est-à-dire que la douleur n'est plus soignée, donc ils augmentent les doses ?
Alors, pas forcément. Alors, ça peut être effectivement une des raisons, mais aussi, les patients peuvent ressentir aussi un certain bien-être et être dépendants aux produits. Donc, pour avoir les mêmes effets, en fait, augmente les doses également.
La liste des effets secondaires, elle est importante sur ce genre de médicaments et précisément sur le tramadol?
Alors, bien sûr, tout médicament a des effets indésirables. Et c'est vrai, concernant le tramadol, donc il y a un antalgique opioïde, on a des effets indésirables qui sont, oui, importants. En plus, on a pour ce médicament-là, spécifiquement par rapport aux autres antidouleurs opioïdes, on a des risques de convulsions, qui est un risque supplémentaire également pour ce médicament.
Je vais vous poser une question bête. On peut en mourir si on surdose?
Oui, on peut mourir d'une surdose au tramadol. Et malheureusement, c'est ce qu'on a observé déjà, même dans des enquêtes qui ont été faites. Le tramadol est un médicament opioïde, donc c'est un dérivé de l'opium, et comme tout dérivé de l'opium, il peut provoquer des overdoses.
Nathalie Richard, il y a d'autres moyens, on l'a vu dans La France Bouge il y a 48 heures, hein, il y a des substituts pour éviter ce type de traitement, contre les douleurs chroniques notamment.
Alors attention, hein, il n'est pas question de ne pas utiliser du tramadol pour le traitement des douleurs. Hein. Ce qu'on souhaite, c'est que le tramadol soit mieux utilisé, et que les médecins et les patients aient conscience des risques qui sont associés à la prise de ce médicament. Il n'est pas question de remplacer le tramadol par un autre médicament. Par contre, il faut mieux l'utiliser.
Oui, mais on peut aussi ne pas l'utiliser et trouver une autre médication, ne serait-ce que ça soit une solution plus douce et pas forcément médicamenteuse.
On est bien d'accord là-dessus. C'est-à-dire que, bien évidemment, il y a d'autres moyens. Il y a beaucoup de moyens aussi de traiter la douleur. Par contre, c'est vrai que le recours à un médicament est indispensable pour traiter une douleur. Il ne faut pas s'en priver. Mais bien sûr qu'il faut aussi utiliser des moyens, en tous les cas, des méthodes alternatives potentiellement, qui peuvent aussi traiter la douleur. Merci. Par exemple, traiter la cause de la douleur est une chose importante également.
Eh bien, merci Nathalie Richard, directrice adjointe à l'Agence du médicament. Merci d'avoir été avec nous.
Il est midi 19. Europe 1. Restez avec nous sur Europe 1. Une nouvelle pause est dans un instant à Marseille. Décidément, quand ça veut pas, ça veut pas.
Il est midi 22, c'est la suite de votre journal avec Pierre Devineau et Raphaël Duchemin.
Et le football, Pierre, c'est la tragique histoire de l'OM parce que quand tout va bien, finalement tout va mal.
Oui, hier un grand moment de solitude pour l'entraîneur André Villas-Boas en pleine conférence de presse alors que Marseille est plutôt en haut du classement. Julien Froment, qu'est-ce qui s'est passé ?
Eh bien, tout est parti d'une question qui semblait pourtant anodine sur le dénommé Paul Aldridge, un Anglais recruté par le président marseillais Jacques-Henri Hérault pour faciliter la vente de joueurs en première ligue anglaise. Eh bien, ce recrutement a jeté un coup de froid façon Mistral dans la salle de presse. L'entraîneur André Villas-Boas, pas mis au courant par son président, l'a appris dans la presse. Voilà sa réaction.
Je n'étais pas informé de la part de Jacques-Henri sur cette décision. J'ai venu ici, un, pour la grandeur du club, deux, pour Zubizarreta. Et j'ai déjà dit que mon futur est intimement lié à son futur.
Alors Andoni Zubizarreta, c'est le directeur sportif, c'est lui qui a fait venir à l'OM André Villas-Boas. Il est censé gérer le recrutement, aussi bien les achats que les ventes du club. La venue de l'anglais Aldridge est donc très mal vécue par les deux hommes, mais aussi par les supporters marseillais qui s'en sont émus avec plus ou moins de tact sur les réseaux sociaux. L'un d'eux a d'ailleurs menacé de mort le président Jacques-Henri Hérault. Il a dévoilé son adresse personnelle avant de supprimer son tweet. Le dirigeant marseillais a déposé plainte. Voilà comment, d'une simple conférence de presse, l'OM, deuxième de Ligue 1, s'est plongé dans une crise surréaliste qui risque de laisser des traces.
Voilà, Julien Froment du service des sports d'Europe 1, puisqu'on parle de Ligue 1, notez également la mise au point du PSG hier face à Monaco, 4 buts à 1 au match aller, qui, rappelons-le, s'est joué après le match retour pour des raisons de calendrier. Une bonne nouvelle pour les basketteuses américaines, elles vont enfin pouvoir toucher des gros salaires auxquels ont droit, bien sûr, leurs collègues masculins. Leur revenu alloué augmente de 53%.
Et si on parlait littérature, allez, Pierre, avec le palmarès des 10 auteurs français qui ont écoulé le plus d'exemplaires en 2019.
C'est le classement GFK publié par le Figaro littéraire. Sans surprise, on retrouve Guillaume Musso en tête et Nicolas Caro. Voilà que Michel Houellebecq arrive dans ce classement, mais c'est pas la même littérature. Hein.
C'est l'exception, il se classe 9e avec Sérotonine, 557 000 exemplaires vendus. Loin devant, effectivement, Guillaume Musso, il a vendu un peu plus d'1 400 000 exemplaires en 2019. Alors, un point sur la méthode quand même, l'Institut GFK comptabilise les ventes tout format confondu, c'est-à-dire grand format, édition de poche et éventuellement coffret de Noël. Voilà pourquoi Guillaume Musso cumule avec son dernier livre « La vie secrète des écrivains » plus l'édition de poche de « La jeune fille et la nuit ». Ensuite, c'est Michel Bussy avec 950 000 exemplaires en 2019, puis Virginie Grimaldi, 755 000, et ensuite seulement Marc Lévy, 744 000, puis Aurélie Valogne, Raphaël Giordano, vous savez, ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, Agnès Martin-Lugan, Franck Tillier pour les Polars.
Ça, il c'est en a pour vendu, vous, ça.
Oui, j'aime beaucoup Franck Tillier. 585 000 exemplaires en 2019, Houellebecq donc, et enfin Valérie Perrin, Changer l'eau des fleurs, c'est au livre de poche. Alors, on ne compte pas Sylvain Tesson, parce que ce n'est pas de la fiction, mais il se serait classé devant Marc Lévy avec 750 000 exemplaires vendus. À noter que ses auteurs vendent moins globalement que ces dernières années. Le volume des ventes totales des 10 premiers du classement est en baisse, mais le total des ventes de romans français est stable.
Merci Nicolas Carreau.
Merci Pierre. Vous revenez dans une demi-heure pour un nouveau journal, 13h sur Europe 1.
Il est midi 25. Europe 1.